Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. C'est à une réunion organisée par l'UIMM que j'ai rencontré Bernard Cherlonnex. J'ai voulu en savoir plus sur la Banque de France, c'est pourquoi je le remercie d'avoir accepté mon invitation. Universitaire, chercheur en économie, conférencier, auteur d'articles pour des revues économiques ou des revues d'idées, maître de conférences en économie, IEP Paris, Bernard Cherlonnex aime tout particulièrement ce qui a trait à l'économie, à l'histoire de la finance et aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est le directeur de la Banque de France, d'Eure-et-Loire, que je reçois. Bernard Cherlonnex, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Vous êtes à la croisée des mondes, banques, administrations, organismes publics comme Oseo, entreprises consulaires. Vous êtes particulièrement bien placé pour créer de la valeur par la mise en relation des acteurs et la valorisation des informations statistiques. Enfin, vous êtes connu pour être celui qui notait les entreprises, qui menait des enquêtes de conjoncture. Alors, vous avez beaucoup de responsabilités dans la Banque de France, mais j'aimerais tout d'abord que vous nous disiez comment est née la Banque de France.
Alors, la Banque de France en Eure-et-Loire est née en 1870 à Chartres, et juridiquement en 1870 et physiquement, pratiquement en 1875, puisque nous avons ouvert la succursale qui est celle qui existe à Chartres, 32 rue du docteur Gilbert Monory, oui. Au même endroit depuis ce moment-là.
Mais en France, elle était née avant.
Mais au niveau national, donc, la Banque de France est née en 1800, une date facile à se remémorer. C'est une création donc pré-impériale.
Parce que c'est Bonaparte.
De Bonaparte. Et dont l'idée, en tout cas officielle, était de faciliter le financement de l'économie et dont la fonction a été double. D'une part, effectivement, servir de banque aux entreprises et puis aussi servir de banque à l'État. C'est une définition centrale qu'il faut avoir pour la Banque de France. La Banque de France est la banque de l'État, la banque des banques. Napoléon disait, ça résume bien toute la problématique des banques centrales aujourd'hui, qu'il faut que la banque, disait-il, la banque pour la Banque de France, ne soit ni trop, ni trop peu dans les mains du gouvernement. C'est la première grande date. Si on parcourt vite l'histoire, on peut citer comme deuxième grande date la date de 1848, où la Banque de France a obtenu le monopole d'émission de ses billets sur
oui,
tout le territoire.
Ça, c'est très très important.
C'est le cœur, disons, institutionnel de la Banque de France, qui est un institut d'émission. C'est sa première mission.
D'ailleurs, pour les gens, C'est surtout cela, en fait, émettre des billets de banque.
Voilà, la Banque de France fait surgir, vos auditeurs le savent mieux, des diverses images, des images de lingots, des images de billets, des fois des images de fichiers, ça dépend un tout petit peu la manière dont on l'aborde. Si on poursuit très rapidement ce parcours historique, on peut citer la date de 1945, puisque ce n'est qu'en 1945, comme les autres grandes banques, que la Banque de France est nationalisée. Elle est dirigée à partir de ce moment-là, enfin depuis avant la guerre, mais on ne va pas rentrer dans trop de détails, par un conseil général qui a remplacé le conseil des régents, qui a fait beaucoup parler de lui, puisque l'image des 200 familles naît des 200 principaux actionnaires qui nommaient le conseil de régence, qui était composé beaucoup de banquiers privés avant donc la Seconde Guerre mondiale. Si on va également très vite dans l'histoire, on arrive à la date de 1993, après le traité de Maastricht, où le statut de la Banque de France change pour qu'elle devienne plus indépendante. Alors là, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'on reste dans la ligne napoléonienne de départ. Eh bien, c'est pas trop dans les mains du gouvernement. C'était une condition allemande liée à leur souci de stabilité monétaire. Et puis ensuite, les grandes étapes, chacun les a plus ou moins en tête. En 1999, la Banque Centrale Européenne est créée.
Oui, et alors là, ce sera bien de nous en dire quelques mots.
Volontiers. Et en 2002, l'euro fiduciaire rentre dans les poches des citoyens, bien qu'au niveau des marchés et au niveau des comptabilités, l'euro se soit mis en place progressivement entre 1999 et 2002. Voilà les grandes dates que l'on peut avoir en tête pour situer la Banque de France.
Et à la tête de la Banque de France, c'est un gouverneur.
À la tête de la Banque de France, il y a un gouverneur depuis 1805, puisque de 1800 à 1805, il y avait un président d'une société anonyme normale qui est nommé effectivement par le chef de l'État.
Et cela pour 6 ans ?
Pour 6 ans, depuis le statut d'indépendance de la Banque de France.
6 ans renouvelables.
6 ans renouvelables, mais 6 ans dans lesquels, sauf évidemment un problème particulier, le gouverneur n'est pas révocable. C'est donc justement une des manifestations de l'indépendance de la Banque Centrale Nationale vis-à-vis du gouvernement de la France.
Alors nous connaissions M. Trichet, mais il a été remplacé maintenant. Alors pouvez-vous nous dire qui est le nouveau gouverneur ?
Alors, Jean-Claude Trichet a été gouverneur de la Banque de France, puis président du directoire de la Banque Centrale Européenne. Donc on le connaît sous ces deux facettes. On connaît peut-être moins, mais à tort, Christian Noyer,
voilà,
qui est l'actuel gouverneur de la Banque de France et qui a fait d'ailleurs un travail énorme et positivement ressenti à l'intérieur de la Banque de France. Oui, son mandat a été renouvelé et jusqu'en 2015. Qu'il quittera sans doute ses fonctions en 2015, puisque je pense qu'il n'y aura pas de... Il n'y a pas de troisième mandat prévu.
Bon, alors vous nous avez parlé de la Banque de France, de la BCE, et comment cela s'articule-t-il ?
Alors, la Banque Centrale Européenne, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas la maison mère des banques centrales nationales, elle en est la filiale. Pour autant, elle est l'organe dirigeant du système européen de banques centrales, c'est-à-dire de l'ensemble des banques centrales nationales de l'Union européenne, dont le sous-ensemble est la zone euro. La zone euro, c'est l'ensemble des pays qui ont adopté l'euro comme monnaie et qui, au niveau des banques centrales, est dirigé par l'eurosystème. Et donc la Banque centrale européenne est l'organe dirigeant de l'eurosystème et plus largement du système européen de banques centrales, mais elle est elle-même donc la filiale des banques centrales nationales. Pas la filiale de la Banque de France, mais la filiale de l'ensemble. Et ceci se traduit dans la gouvernance de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne est dirigée par un directoire qui est à l'heure actuelle présidé par Mario Draghi, dont on entend beaucoup parler dans la presse, donc italien désormais, et un comité des gouverneurs. Ce comité des gouverneurs est composé de l'ensemble des gouverneurs des banques centrales nationales. Donc cette institution européenne centrale fédérale est en fait justement contrôlée par les banques centrales nationales. Et c'est ce qui fait que, je dirais, il s'agit d'une institution équilibrée qui ne va pas nécessairement vers une centralisation extrême, qui a trouvé son équilibre aujourd'hui entre le niveau dirigeant européen et le niveau opérationnel national. Quand on dit que les banques centrales, que la Banque centrale européenne refinance les banques, on le dit par abus de langage. En France, seule la Banque de France refinance les banques françaises. De même qu'en Allemagne, seule la Bundesbank refinance, prête aux banques commerciales allemandes, aux diverses banques allemandes. La Banque centrale européenne n'agit jamais directement. Elle définit les conditions dans lesquelles les banques centrales nationales agissent dans chacun de leurs pays.
Je crois que c'est très clair. On a un peu quitté Chartres.
On a un peu quitté Chartres.
Peut-être on pourrait revenir un peu à Chartres, et aussi parce que c'est Chartres, mais c'est aussi la région centre. Alors peut-être vous aviez commencé par expliquer quand a été née la Banque de France à Chartres. Peut-être allons plus loin.
Alors on peut parler, je crois que c'est effectivement bien pour vos auditeurs, de ne pas se noyer dans l'ensemble, pardonnez-moi ce jeu de mots, monsieur le gouverneur, dans l'ensemble des missions d'une banque centrale nationale qui sont effectivement très larges. J'ai implicitement cité la mission principale qui est la politique monétaire en parlant du refinancement des banques. C'est les conditions dans lesquelles les banques sont refinancées par les banques centrales nationales qui expriment en fait la politique monétaire. Sur le terrain, la Banque de France, donc dans les départements, exerce un certain nombre de missions, au nombre de 3, pour aller à l'essentiel. La première mission, c'est une mission fiduciaire. Donc la Banque de France met en circulation et entretient la monnaie fiduciaire, les billets.
C'est-à-dire que quand vous dites entretien...
Entretien, c'est-à-dire que les billets... Voilà,
disparaissent.
Les billets reviennent par les transporteurs de fonds, dans les caisses donc, des banques de France, en tout cas pour partie, puisqu'il y a aussi du recyclage direct. Et à ce moment-là, effectivement, les billets sont soit détruits quand ils sont en trop mauvais état, soit remis en circulation s'ils sont en bon état.
Et d'autres sont imprimés.
Et d'autres sont mis en circulation, parce que ce n'est pas au niveau donc, des succursales qu'on imprime, mais effectivement, il y a des billets neufs qui sont à nouveau remis en circulation.
Mais pour nos auditeurs, on peut dire qu'il y a des gens qui impriment les billets.
C'est la Banque de France, en France, mais qui d'ailleurs le fait dans un système concurrentiel européen désormais, qui imprime donc les billets en euros qui sont mis en circulation par l'ensemble donc des succursales de la Banque de France.
Donc, première mission.
Première mission, le fiduciaire. Et en contrepoint de cette mission, les formations à l'authentification de la monnaie fiduciaire. S'il y a des commerçants qui sont parmi vos auditeurs, voilà, nous faisons des formations gratuites sur place pour les grandes surfaces, pour la gendarmerie, la police, les petits commerçants, pour détecter le faux du vrai, donc authentifier la monnaie, détecter les contrefaçons.
Alors, par exemple, si des auditeurs veulent suivre
veulent organiser ces formations, puisqu'on le fait à la demande, il faut recourir à nous. Donc, venir voir la Banque de France, passer soit par le site de la Banque de France pour avoir l'identité, soit par le bottin. Non, mais la Banque de France est accessible par divers moyens.
Chers auditeurs, si vous voulez contacter la Banque de France,
c'est possible.
C'est très possible. Vous aurez une conférence. Et pour cela, il suffit ou de téléphoner ou bien d'envoyer un mail. C'est bien cela.
Mais ce n'est pas une conférence, c'est une formation très pratique, d'une heure et demie, deux heures, qui est faite pour les hôtesses de caisse des grandes surfaces, pour les gens qui ont affaire à la monnaie fiduciaire, où on découvre ou on approfondit sa connaissance des signes de sécurité de la monnaie fiduciaire. Et puis on regarde des faux, nous mettons en circulation exceptionnellement, juste pendant le temps de la formation, des faux pour faire repérer aux gens par la méthode qui est touchée, inclinée, regarder.
Ah oui.
Nous faisons vraiment une formation très rapide et sur place.
Si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Avec Bernard Cherlonnex, directeur de la Banque de France à Chartres. Et justement, nous avons expliqué les grands moments de la Banque de France, son histoire, et nous en étions aux missions. Alors, Bernard Cherlonnex, est-ce que vous pouvez justement nous dire les autres missions, puisque nous en étions arrivés à la monnaie? Vous avez expliqué que les entreprises pouvaient très bien vous contacter pour essayer d'avoir une formation pour savoir si les billets qu'ils recevaient étaient faux. C'est bien cela.
Tout à fait. Alors, si vous me permettez une précision pour vos auditeurs, puisqu'on dit le directeur de la Banque de France de Chartres, c'est un directeur départemental qui est très heureux d'être dans le studio de Radio Grand Ciel à Nogent-le-Rotrou et de marquer par là justement la dimension départementale de nos missions, même si effectivement nous n'avons plus, puisque nous avions un bureau à Dreux, nous n'avons plus qu'un seul établissement à Chartres désormais.
Eh bien, nous vous remercions vraiment d'être venus à Nogent-le-Rotrou aujourd'hui.
Donc j'enchaîne sur les deux autres grandes missions de la Banque de France dans son réseau de succursales, donc sur le terrain. On nous connaît en tout cas du côté entreprise pour notre notation ou notre cotation dans notre langage à nous. Nous apprécions la capacité, si vous me permettez cette définition technique, la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers à 3 ans. Bref, nous notons la pérennité d'une entreprise, sa capacité à survivre à certains aléas. Et nous chiffrons, comme à l'école, mais selon une grille différente.
De 0 à 5, c'est ça?
Non, c'est pas non, de 0 à 5 à la Banque de France, c'est de 3++ à 9.
Bon,
c'est comme cela, les plus-plus, on les a repris des agences de notation il y a une dizaine d'années. Et le 3++, c'est le sommet de la cotation Banque de France. Seuls 3% des entreprises françaises d'une certaine taille. Ouais. Nous cotons les entreprises à partir de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Donc tous les commerçants, par exemple, ne sont pas cotés par la Banque de France. Donc quand une entreprise est notée 3++, ça veut dire que sa capacité à honorer ses engagements financiers est excellente, et ainsi de suite en descendant progressivement, et on arrive dans des zones de cotation péjorative au 6, au 7, au 8 ou au 9, où il y a des incidents de paiement et donc des risques justement de défaillance de l'entreprise de plus en plus grands.
Alors ça, vous notez tous les combien ?
Nous notons à peu près, enfin sauf s'il y a des évolutions intra-annuelles, mais le rythme est en principe annuel. Donc, sauf s'il y a justement des incidents de paiement qui arrivent en cours d'année, là la cotation peut se dégrader.
Excusez-moi, est-ce qu'une entreprise peut améliorer sa note ?
Mais bien sûr.
Voilà.
Mon message pour les chefs d'entreprise, puisqu'en fait nous notons les entreprises pour les banques, mais nous sommes en contact avec les entreprises.
C'est-à-dire pour que les entreprises puissent avoir des crédits
Les banques s'en servent effectivement pour délimiter. Elles ont aussi leur propre système de notation interne, mais elles se servent de la cotation Banque de France donc pour challenger leur propre notation, et ça leur sert à définir les conditions dans lesquelles elles prêtent, le niveau d'engagement qu'elles acceptent de prendre sur les entreprises. Mais bien que nous notions les entreprises pour les banques, chaque entreprise est avertie par une lettre de cotation de sa cotation ou notation Banque de France. Et nous sommes les seuls à le faire, bien que les entreprises puissent demander aux banques leur notation interne. Et à ce moment-là, les banques sont tenues de leur donner, mais elles ne le font pas spontanément encore. Nous disons que cette lettre de cotation doit être reçue par les chefs d'entreprise comme un message. Mmh. On est toujours à la recherche de l'élément de l'alerte anticipatrice. Eh bien, l'alerte anticipatrice, s'il y a des chefs d'entreprise qui m'écoutent,
sûrement,
c'est la décotation de la Banque de France. Et donc, on peut passer d'un très bon niveau de cotation à un moins bon niveau de cotation. Le message, c'est qu'est-ce qui fait que ma cotation a baissé ? Alors, le chef d'entreprise, souvent, est bien placé pour le savoir, mais pas forcément. Et donc, on l'invite à prendre un contact avec nous et à avoir, disons, en tout cas, un regard sur la manière dont on est coté par la Banque de France. Il y a divers critères dans lesquels je ne vais pas rentrer. Mais cela n'est pas uniquement mathématique et ce n'est pas uniquement sur la base des chiffres et des bilans que nous cotons les entreprises. C'est pourquoi nous les incitons à nous rencontrer quand nous n'allons pas nous-mêmes vers elles, ou à nous donner les informations qui ne sont pas comprises dans les états de synthèse, le bilan, le compte de résultat qu'elles nous transmettent.
Parce que je sais que vous-même, vous allez dans les entreprises, et ça, je crois que c'est très intéressant et très bien pour les chefs d'entreprise qui voient que, déjà, vous participez à leur travail et que vous en prenez soin, si je puis dire.
Oui, en tout cas, on voit, quand on rend visite à une entreprise, on voit l'entreprise, on voit le chef d'entreprise, on découvre la stratégie, on voit tout ce qui n'est pas dans les chiffres. Et c'est cela d'ailleurs qu'on vient rencontrer dans l'entreprise, tout ce qualitatif qui est devenu un des piliers de la cotation Banque de France, notamment dans les temps difficiles. Donc nous prenons de plus en plus en compte justement les éléments qualitatifs, la qualité du management, la stratégie, le formalisme de la stratégie, la solidité de l'équipe de direction. Il y a un fameux risque homme-clé qui est toujours important et qui n'est écrit nulle part. Oui. Si un dirigeant solitaire a un pépin de santé, c'est un élément de risque essentiel qui n'est pas inscrit dans le bilan.
Et est-ce que le chef d'entreprise peut discuter cette note?
Ah, mais nous venons discuter, nous venons l'entendre, nous venons découvrir.
Voilà.
C'est le but même. Mais en revanche, quand nous ne venons pas ou quand nous n'appelons pas les entreprises, les chefs d'entreprise, eh bien, ils peuvent toujours prendre contact avec nous pour nous dire ce qu'on ne sait pas et qu'on ne pourra pas découvrir s'ils ne nous l'ont pas communiqué, soit par lettre, soit par commentaire, au moment où leur expert comptable, souvent, nous transmet leur bilan, puisqu'aujourd'hui, ceci se fait de manière automatisée et nous encourageons d'ailleurs cette dématérialisation des échanges avec les entreprises et les experts comptables. Voilà pour la deuxième grande mission,
oui. Hein,
vis-à-vis, donc, en fait, pour les banques, mais vis-à-vis des entreprises. Associé à cela, il y a les enquêtes de conjoncture. Chaque mois, nous interrogeons et nous participons donc à une étude de conjoncture régionale qui se matérialise par la revue Tendance régionale que beaucoup reçoivent dans ce département. Nous interrogeons
d'ailleurs,
donc un échantillon de chefs d'entreprise. Oui,
voilà.
C'est téléchargeable.
Je crois qu'on peut le dire parce que le site, c'est www.banquedefrance.fr.
Banque-France.fr.
Voilà. Et ça, je crois que c'est très important parce que les entreprises, mais comme les particuliers qui veulent savoir, peuvent télécharger ces documents.
Alors, si on va sur le site Banque de France, on peut se perdre. Il faut aller en haut à droite sur la mire de ce site, cliquer sur la rubrique profil à entreprise. Et là, on trouve tout ce qui est utile pour les entreprises et les chefs d'entreprise, dont les études de conjoncture, soit au niveau national, soit au niveau régional que vous venez de mentionner.
Donc, chaque année, en début d'année, vous pouvez vraiment faire une enquête sur le pouls des entreprises.
Alors, par ailleurs, et dans la prolongation, effectivement, de ces enquêtes mensuelles de conjoncture, nous faisons chaque année un bilan de l'économie régionale. Chaque département et chaque banque de France dans les départements y contribuent. Nous faisons un bilan et des perspectives de l'année qui va suivre. Et c'est un événement que j'essaye d'ailleurs de développer depuis 2-3 ans à Chartres.
Oui, parce que
date de
je
mon
n'ai
arrivée.
Pas dit à nos auditeurs que vous êtes arrivé il y a peu de temps.
2 ans et demi.
Je sais que vous avez été très regretté à Montauban. Vous étiez à Montauban et les gens pleuraient quand vous êtes parti. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir, j'en profite pour le dire. Et depuis que vous êtes là, je sais que vous avez vu déjà beaucoup de chefs d'entreprise.
Bon, vous êtes bien informé sur ce départ, je ne sais pas, je n'ai pas été au courant de l'arme particulière, mais merci de votre accueil.
C'est ça, c'est beaucoup de choses.
Et donc voilà, nous faisons donc chaque année, et j'ai repris effectivement une pratique que j'avais développée et que d'autres collègues pratiquent également dans d'autres départements, qui est donc de faire une assez grande réunion pour que les chefs d'entreprise puissent entendre ce débriefing un peu sur l'année qui vient de s'écouler et les perspectives exprimées par les chefs d'entreprise eux-mêmes. Bien entendu, la Banque de France n'invente rien. Son point fort, c'est de synthétiser, d'agréger des réponses de sachants qui sont les gens eux-mêmes dans les secteurs, les chefs d'entreprise. Et nous faisons un bilan de leurs prévisions en fin d'année. Il peut y avoir évidemment des réalisations qui s'écartent des prévisions elles-mêmes des chefs d'entreprise. C'est un moyen aussi d'échanger avec nos informateurs que nous remercions de cette participation à nos travaux pour éclairer justement les décideurs.
Donc vous travaillez avec les chambres des métiers, les chambres de commerce, le MEDEF,
la chambre d'agriculture,
l'UMM, la CGPM, PME.
La CGPME, oui.
Je pense que vous connaissez donc dans le département maintenant tous les grands groupes.
Oui, en tout cas, la Banque de France a une position effectivement centrale. Premièrement, c'est un service public indépendant de l'État, donc elle n'appartient pas à l'administration d'État à proprement parler, mais elle en est proche puisque la Banque de France est une filiale 100% de l'État. Donc on est au cœur du système public dans chaque département et je suis très honoré d'ailleurs de participer au collège des chefs de service autour du préfet et je pense que je suis le seul qui ne suis pas État à participer à cette réunion. Donc nous sommes en liaison avec l'État, nous sommes en liaison avec le monde consulaire, nous sommes en liaison avec les banques, nous sommes en liaison avec les entreprises. Nous avons effectivement une position, c'est peu connu, qui est assez centrale par rapport à beaucoup d'acteurs. Et si on en vient à la troisième mission,
oui, les particuliers.
La mission en tout cas qui concerne les particuliers, eh bien ça nous rapproche de tout le monde social auquel on n'a pas a priori l'idée de nous associer. J'ai envie de mettre comme chapeau général sur cette troisième mission, gérer ou aider à gérer les difficultés financières des particuliers.
Alors dites-nous ça parce que rapidement...
Le gros morceau, c'est le surendettement.
Oui.
Le gros morceau, c'est le surendettement. La Banque de France est connue pour ça. Et donc, elle est le secrétariat des commissions départementales de surendettement, présidée en droit par le préfet, qui se fait représenter par un délégué, et dont le vice-président est le directeur départemental des finances publiques, l'ex-TPG, a disparu il y a quelques années dans les réorganisations administratives de l'État. Et donc là, nous traitons près de 1800 dossiers chaque année et nous trouvons donc des solutions de rééchelonnement pour les gens en difficulté, des solutions d'effacement quand il n'y a pas d'autres solutions et que les capacités de remboursement des particuliers ne sont pas suffisantes. Et les autres aspects de cette mission donc de gestion des difficultés financières des particuliers concernent le droit au compte.
Alors,
il n'y a pas de droit spontané au compte dans le droit français. Une banque peut refuser d'ouvrir un compte. Une banque peut dire à un client « je n'ai plus convenance », selon une formule un peu désuète employée par les banques, à garder une relation bancaire avec vous. Et dans ce cas-là, depuis 1984, la Banque de France est chargée, parce qu'on ne peut pas exister si on n'a pas un compte bancaire. Aujourd'hui, oui. Où les échanges sont essentiellement donc dématérialisés. La Banque de France est chargée de désigner un établissement qui est forcé d'ouvrir un droit au compte, mais peut limiter ses services. Il n'est en aucun cas, par exemple, tenu de donner un chéquier à celui à qui il est contraint, en quelque sorte, d'ouvrir un compte.
Et ça, les particuliers utilisent bien ce service ?
Beaucoup, oui, beaucoup, et de plus en plus. Et il y a eu justement quelques soucis dans la manière dont les banques ont travaillé sur ce sujet qui a fait que, désormais, le sujet est devenu encore plus public.
Eh bien, je crois, Bernard Cherlonnex, que nous avons vraiment bien compris ce qu'était la Banque de France. Un grand merci à vous. Je voudrais vous rappeler, chers auditeurs, que vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, monsieur le directeur de la Banque de France.
Merci à vous.